Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, 12h-13h, c'est Midi-News Weekend. Vous le savez, le samedi, on vous propose une heure d'information décryptée par mes deux invités que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, on fait un tour de l'info complet avec Isabelle Piboulot, que je salue. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un imam officiant à Toulouse a été expulsé hier soir vers l'Algérie. Mohamed Tayata a été condamné pour provocation à la haine et à la violence envers la communauté juive. Une audience pour examiner une requête en référé est prévue lundi au tribunal administratif de Paris. La protection des Français est ma priorité, a déclaré sur X Gérald Darmanin. Rima Hassan, convoquée à la fin du mois par la police pour apologie du terrorisme, des faits remontant à novembre et décembre dernier. La candidate présente à la 7e position de la liste LFI aux européennes dénonce des manœuvres purement politiciennes. Les explications de Sarah Varni.
C'est une convocation qui fait grand bruit. La candidate insoumise aux élections européennes a été convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. La militante controversée est convoquée le 30 avril prochain afin d'être entendue librement sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme.
J'apprends avec stupéfaction cette convocation. Je ne me laisserai pas intimider par des manœuvres purement politiciennes visant à compromettre ma liberté d'expression sur la Palestine.
Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre, alors que l'activiste franco-palestinienne n'était pas encore investie par la France insoumise. La candidate dit regretter un extrait d'interview tronqué. La France insoumise a rapidement réagi.
Contrairement aux propos qui lui sont imputés, Rima Hassan n'a jamais dit que les actions du 7 octobre étaient légitimes.
Les insoumis dénoncent une tentative d'intimidation au lendemain de la double annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur le Proche-Orient à Lille, prévue ce jeudi, en raison d'un risque de trouble à l'ordre public.
Une nouvelle drogue fait des ravages chez les jeunes, le Bouddha Blue ou PTC, comprenez, pète ton crâne, une substance plus forte que le cannabis, arrivée en France en 2015. En Mayenne, une lycéenne a récemment fait un malaise après en avoir fumé. Reportage de Michael Chailloux.
À Château-Gontier, en Mayenne, 12 000 habitants, l'alerte a été donnée il y a une semaine quand une élève de ce lycée a fait un malaise à quelques centaines de mètres de l'entrée de l'établissement.
La jeune fille était allongée par terre sur le trottoir sans réaction, inconsciente en fait. Il me semblait important de pouvoir alerter rapidement les familles parce que on pourrait nous le reprocher après en plus.
Ce courriel de mise en garde a été envoyé aux 900 familles des deux lycées publics de la ville. Cette drogue des adolescents, Bouddha Blue ou PTC pour pète ton crâne, ici tout le monde la connaît, très facile à trouver sur le net et moins risqué que d'acheter du cannabis dans la rue.
C'est un produit qu'on met dans les cigarettes électroniques.
Et ça se voit pas et ça sent pas.
Et c'est pas détectable au test à l'hiver non plus.
Ça retombe le crâne, hein, littéralement. Tu sais plus ce que tu fais, en vrai. C'est très très fort.
C'est plus fort et c'est plus rapide que le shit, par exemple. C'est direct.
Le produit est très abordable à partir de 10 euros la fiole de 10 millilitres pour cigarettes électroniques. Il est apparu en 2015 en France et est classé stupéfiant depuis 2017.
Ça, c'est des produits synthétiques qui ne sont pas produits sur la base des plants de cannabis, mais qui sont des substances chimiques qui imitent ces effets. C'est un produit qui est mal connu parce que récent et de synthèse, donc qui peut potentiellement avoir des effets problématiques plus importants que le cannabis lui-même.
Si la plupart des parents de Château-Gontier découvrent le PTC depuis une semaine, on sait qu'il y a eu de nombreux malaises d'adolescents du côté de Caen ou Narbonne ces derniers mois.
Prévu aujourd'hui dans le secteur de la Tour Eiffel, un défilé d'une cinquantaine de chameaux, dromadaires, lamas et alpagas n'aura pas lieu. Le tribunal administratif de Paris a confirmé hier l'interdiction de la préfecture de police pour raison de sécurité. Une réunion de crise doit déterminer si l'événement se tiendra finalement dans le bois de Vincennes. Et puis on termine ce journal avec cette image. La flamme olympique est arrivée hier à l'acropole d'Athènes dans le cadre du relais de 11 jours à travers la Grèce. Elle sera officiellement remise aux organisateurs des Jeux de Paris le 26 avril. La flamme est ensuite attendue à Marseille le 8 mai pour une tournée française avant le lancement officiel des JO le 26 juillet. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans 10 minutes pour un prochain point. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous, Thierry.
Merci, on se retrouve dans 15 minutes, c'est bien cela. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure ce matin pour cette heure d'information. Nos deux invités, Sawina Medjamer, essayiste, sociologue, soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Patrice Arditi, fidèle également de l'émission, journaliste, soyez la bienvenue. J'accueille avec beaucoup de plaisir Noémie Schulz, journaliste police-justice, et Élodie Huchard, journaliste politique. Bonjour. On va commencer notre émission en évoquant encore ce samedi la mort de Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe, après la marche blanche organisée hier en hommage à Philippe. L'émotion est toujours intense. On sera sur place dans quelques instants. Les suspects de mineurs ont été mis en examen pour assassinat hier. On va revenir sur le profil avec vous dans quelques instants, Noémie Schulz. Les proches de Philippe ne comprennent toujours pas ce qui a pu se produire. On voit cela avec Dunia Tangour, Maxime Leguet et Olivier Gangloff.
Deux mineurs mis en examen pour assassinat dans l'enquête sur l'agression de Philippe Koopmans. Selon la procureure de Dunkerque, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens. Les deux individus de 14 et 15 ans ont affirmé en garde à vue avoir fixé rendez-vous à la victime via l'application de rencontre Cocoland en se faisant passer pour une jeune fille mineure.
Le mineur de 14 ans reconnaît sa participation. Il admet qu'il a porté des coups de pied, mais il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Le mineur de 15 ans, pour sa part, reconnaît qu'il était présent pendant les faits, mais il réfute avoir porté des coups.
Les deux mineurs ont été placés en détention provisoire et sont connus des services de police pour plusieurs faits.
Le mineur de 14 ans a été déclaré coupable pour des faits de violence commis en juillet 2023, août 2023 et décembre 2023. Le mineur de 15 ans, pour sa part, a été condamné pour des dégradations commises en mars 2022. Il a par ailleurs été déclaré coupable de faits de vol en réunion commis en août 2023.
Une autre enquête est en cours pour des agressions commises dans des circonstances similaires après des rendez-vous fixés sur le site de rencontre.
Et on va prendre la direction de Grande-Synthe, retrouver Maxime Leguet et Olivier Gangloff. Bonjour Maxime, après la marche blanche d'hier, je le disais, l'émotion est toujours très importante sur place.
Oui Thierry, une émotion toujours aussi vive et qui ne retombe pas ici depuis maintenant 3 jours et l'annonce du décès tragique de Philippe. Après la sidération et l'effroi, c'est désormais la colère et l'incompréhension qui prédominent ici. Pourquoi Philippe ? Pourquoi s'en être pris à ce jeune homme de 22 ans ? Pourquoi aussi et surtout un tel déchaînement de violence ? Voilà les questions qui reviennent inlassablement de la part des habitants de Grande-Synthe, des habitants qui demandent désormais que justice soit faite, que des peines lourdes et fermes soient prononcées à l'encontre des mises en cause, même s'il s'agit de mineurs. Lorsqu'on commet un acte d'une telle barbarie, on doit être jugé comme un majeur. Voilà ce que me disait l'un des habitants de Grande-Synthe ce matin. Alors, de son côté, l'enquête, elle, poursuit son cours et semble s'élargir à d'autres cas similaires, puisque plusieurs autres personnes ont déclaré avoir été victimes d'un guet-apens via le truchement de ce site de rencontre sur Internet nommé Cocoland. C'est cette récurrence du mode opératoire qui retient l'attention des enquêteurs. Ces différentes agressions sont-elles liées les unes avec les autres ? Les principaux suspects sont-ils les mêmes que ceux qui ont ôté la vie à Philippe ? Tout cela, seule l'enquête pourra nous le dire.
Merci beaucoup Maxime Leguet et Olivier Gangloff depuis Grande-Synthe. Noémie Schulz, vous êtes avec nous, je l'évoquais, on l'a évoqué à l'instant, les deux suspects étaient déjà connus des services de police et faisaient preuve d'une mesure éducative judiciaire provisoire, hein, c'est cela ?
Absolument, le mineur de 14 ans, on a entendu la procureure de la République, avait été reconnu coupable de plusieurs faits de violence qui s'étaient déroulés au mois de juillet, août et décembre 2023. Et le mineur de 15 ans, lui, avait été redéclaré coupable de vol en réunion pour des faits commis en août 2023. Et tous les deux attendaient d'être jugés, de savoir à quelles sanctions ils allaient être condamnés. Vous savez, c'est une des conséquences de la réforme du code de justice pénale des mineurs. Maintenant, pour les affaires en matière délictuelle, les affaires sont jugées en deux temps. Vous avez d'abord une reconnaissance de culpabilité. Donc tous les deux avaient été reconnus coupables à l'été dernier. Et vous avez, dans un délai de 6 à 9 mois, une audience qui statue sur la peine. Et en attendant, on va regarder comment vous vous comportez. Et les jeunes peuvent faire l'objet de mesures éducatives judiciaires provisoires. C'était le cas de ces deux mineurs. Alors la procureure de la République n'a pas précisé la nature de ces mesures les concernant l'un et l'autre. Mais je vais vous donner quelques exemples de ce qui peut être décidé dans des situations comparables. Il peut y avoir un volet insertion, on va faire en sorte que le mineur soit accueilli dans un internat ou soit pris en charge scolairement parlant. Il peut y avoir un volet réparation. Si par exemple le jeune a contribué à fait des dégradations, eh bien il va devoir peut-être réparer ce qu'il a dégradé. Il peut aussi indemniser la victime. Et ça aussi est parfois réparer la réparation à l'égard de la victime si celle-ci est d'accord. Il y a un volet santé, une prise en charge médicale avec un suivi dans un établissement de soins si besoin. Et puis, il peut y avoir aussi un volet placement dans un établissement de la PJJ, mais visiblement, ça n'était pas le cas concernant ces deux mineurs. En tout cas, ils étaient donc surveillés en attente de ces audiences qui devaient statuer sur la peine. Ça ne les a pas empêchés, malheureusement, de passer à l'acte et d'organiser de tendre ce terrible guet-apens. En tout cas, c'est ce qu'ils ont indiqué en garde à vue. Bien sûr, l'enquête se poursuit.
Merci beaucoup, Noémie. Sabrina, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, ce qu'on fait, c'est cet exemple-là de ce mineur de 14 ans qui était déjà connu pour des faits de violence en juillet, en décembre, si j'ai bien compris. C'est l'exemple parfaitement illustratif de l'inertie de cette machine judiciaire à l'égard des mineurs. Pourquoi ? Parce que entre le moment où effectivement la culpabilité est reconnue et la mesure est décidée, il se passe plusieurs mois. Et ces mois, malheureusement, ne servent pas à pouvoir infliger une peine qui puisse être une peine exemplaire pour le mineur. Il y a plusieurs pédopsychiatres, on va encore le citer, mais pas que. Je parle de Maurice Berger, mais je parle également de Ruben Rabinovitch, qui avait écrit un excellent papier dans Marianne, après avoir reçu les émeutiers, ou en tout cas certains, parce qu'il y avait des injonctions à cela. Il expliquait très bien qu'en réalité, ces jeunes-là se fichent d'aller en prison, puisque de toute façon, ils savent qu'en prison, même, ils pourront recommencer les mêmes bêtises qu'ils opèrent dans la rue. Donc la prison ne leur fait pas peur. Alors effectivement, le mécanisme qui est le plus important, c'est celui de la butée, c'est-à-dire de la peine immédiate. Vous avez un exemple parfait aux Pays-Bas où un avocat, Guillaume Janson, a écrit un article dans Atlantico où il expliquait que, je vous donne les chiffres précis, qu'une vingtaine de prisons ont fermé depuis 2003, que 50% du nombre de prisonniers a diminué et que les agressions ont baissé de 30% de 2008 à 2015. Pourquoi ? Il explique précisément parce que la durée moyenne d'incarcération est de 2,9 mois contre 8 à 10 mois en France. Donc effectivement, à partir du moment où la peine est exécutée dans les plus brefs délais, ça peut au moins ôter le sentiment d'un mode de vie choisi et un sentiment d'impunité chez ces jeunes. Donc la priorité à faire dans la réforme de la justice pénale des mineurs, c'est l'immédiateté de la peine, c'est-à-dire la butée matérialisée préconisé par Maurice Berger.
Patrick, je vous fais réagir dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter une réaction, celle de Sophie, la maman d'Enzo. Vous vous souvenez sans doute, le 22 juillet dernier, Enzo, son fils âgé de 15 ans, a été tué, poignardé par un adolescent du même âge. Elle était l'invitée de Michael Dorian ce matin dans la matinale. Écoutez-la.
Le combat, on veut les traiter comme des enfants. Avec une peine de mineur, on se comporte avec eux, voilà, avec des circonstances atténuantes ou des... Pour moi, on est trop gentils avec eux, mais par contre, on fait des choses de l'autre côté où on les considère comme des adultes. Pour moi, à 17 ans, t'es encore un enfant. Et aujourd'hui, on les juge comme des enfants, mais par contre, ils se comportent comme des adultes. Il y a plein de choses qui vont pas, ils ne seront pas jugés comme des adultes.
C'est important ce que dit la maman d'Enzo. On est vraiment dans la réalité là.
Complètement. Et je discutais avec une relation qui est juge et qui ne voudra évidemment pas intervenir à l'antenne et qui me disait quoi qu'il puisse se passer, on ne peut pas différencier un gosse de 12 ans et demi qui est extrêmement costaud et qui est d'une haine absolument terrible et un autre de 17 ans et demi. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Elle me dit, on est obligé de les mettre dans des strates et de faire exactement comme si tout le monde se ressemblait. Un mineur, c'est un mineur avant 18 ans. Et cette juge a parfaitement raison. La justice, elle est obligée à un moment donné de s'arrêter à un certain nombre de considérations que le commun des mortels, il ne peut pas comprendre. Maintenant, pour en revenir à cette affaire, ce drame de Philippe, il y a effectivement les enquêteurs qui essayent de voir dans quelles conditions il a pu être tué et de cette horrible manière, mais il y a quand même une troisième personne qui s'est manifestée auprès et des parents et de la police et qui semble dire que c'était lui qui était visé, que c'était lui qui avait été appelé par les malfaiteurs en question et qui aurait dû être à la place de ce malheureux Philippe. Alors bon, on attend évidemment le résultat de l'enquête.
Je vais bien comprendre ce que vous disiez sur, parce que effectivement la justice, elle va faire une différence entre un mineur de 12 ans et demi et un mineur de 17 ans et demi précisément.
Je sais, mais la juge disait que la peur, enfin c'était entre nous, je me parlais, Anne, qu'elle avait peur que ça ne soit pas aussi évident.
Aujourd'hui, un mineur de 13 ans, par exemple, il ne peut pas être reconnu coupable d'une infraction. On estime qu'il n'a pas le discernement.
C'est évident. Ça. Alors, entre 14 ans et demi et puis 17 ans.
Par exemple, 17 ans, l'excuse de minorité peut éventuellement être levée par les magistrats. N'est pas le cas d'un mineur de moins de 16 ans.
C'est que jusqu'à présent, ou disons jusqu'à un passé récent, on mettait les mineurs tous dans le même sac. Et que justement, c'est ça qui est à réformer.
D'accord.
12h15, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
L'autoroute A13 restera fermée au moins jusqu'à lundi suite à un mouvement de terrain. Cette portion de route entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est habituellement très empruntée, mais une importante fissure profonde de 50 à 80 cm est apparue au niveau de Saint-Cloud. La police de New York confirme le décès de l'homme qui a tenté de s'immoler par le feu hier en face du tribunal de Manhattan où est jugé Donald Trump. Né en 1987, Maxwell Azzarello était originaire de Floride. Un témoin raconte l'avoir vu jeter en l'air des écrits contenant des théories du complot avant d'ouvrir un bidon et de s'embraser. Ses motivations restent à éclaircir. Enfin, la Corée du Nord a procédé à l'essai d'une ogive de très grande taille conçue pour un missile de croisière stratégique. Le pays a par ailleurs mené un lancement d'essai d'un nouveau type de missile anti-aérien. L'armée sud-coréenne, elle, a déclaré surveiller de près les activités militaires de la Corée du Nord et prévient en cas de provocation de Pyongyang, nous punirons lourdement.
Merci Isabelle. Allez, on continue de décrypter cette actualité riche en ce samedi. Lady Huchard est avec nous. On va parler politique. On va parler de... Et les filles, le dit, et bonne question, non? Vous êtes content que je vous la pose, cette question? Évidemment. Après la double annulation de la conférence à Lille, Jean-Luc Mélenchon a choqué après ses propos que je vous propose de réécouter à nouveau et en débat juste après.
Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulars de l'époque qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition devant l'envahisseur nazi. Nous connaissons l'histoire de notre pays et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches, des faibles, ceux qui, dans la chaîne interminable du mal, signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. « Moi, je n'ai rien fait », disait Eichmann. « Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. » Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté.
Alors, Élodie, où va LFI ou plutôt où va Jean-Luc Mélenchon?
Oui, parce que d'abord, il faut différencier quand même Jean-Luc Mélenchon et une partie de LFI du reste du parti qui sont gênés aux entournures depuis toutes les déclarations qu'il a pu faire depuis le 7 octobre, qui ont toujours dénoncé les attaques, une partie de la gauche aussi extrêmement gênée. Et d'ailleurs, ce genre de comportement de Jean-Luc Mélenchon est ce qui est en train de mener à la fin de la NUPES. Il y a deux raisons, en fait. Premièrement, Jean-Luc Mélenchon est fondamentalement persuadé de ce qu'il dit et toutes les déclarations qu'il a pu faire, aussi choquantes soient-elles, aussi gênantes soient-elles, il le pense vraiment. Et c'est pour ça qu'au début, juste après les attaques du 7 octobre, on a pu dire peut-être que c'est une posture, peut-être qu'il va revenir en arrière. Non, chaque fois, il persiste et signe, il veut choquer. On voit d'ailleurs un certain nombre de ses proches qui sont derrière lui à ce moment-là, qui ne réagissent absolument pas, qui trouvent que sa déclaration semble être totalement normale. Et puis, il y a évidemment derrière ça aussi un enjeu électoral. Il veut aller capter un électorat qui se trouverait plutôt dans les banlieues, dans les jeunes de banlieue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toute cette volonté aussi de la France insoumise de dire qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Éric Dupond-Moretti le disait il y a quelques semaines, il disait qu'il cherche le vote des barbus. Malheureusement, c'est un résumé du ministre de la Justice. Mais c'est un calcul qui est très compliqué, un équilibre compliqué à trouver, parce que certes, Jean-Luc Mélenchon va peut-être s'agréger cet électorat-là, mais que ce soit pour les européennes ou éventuellement, si on pense déjà à 2027, il perd aussi une grande partie de sa base, parce que forcément, ces déclarations pour un tas de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, notamment au premier tour de la présidentielle, ils sont très loin, évidemment, d'adhérer à ce genre de propos.
Et puisqu'on parle des LFI qui fait beaucoup parler en ce moment, on l'a appris hier, Imma Hassan, candidate LFI aux élections européennes, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Les faits qui lui sont reprochés avaient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier, alors qu'elle n'était pas encore investie par le parti. Réaction sur LFI, ma chère Sabrina.
Alors je souscris à ce que vient de dire Élodie, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a cette volonté-là de faire une OPA sur les banlieues, mais c'est pire que cela, c'est-à-dire qu'une OPA sur le soulèvement de la violence dans les banlieues à travers, évidemment, les islamistes. Quand on écoute l'historicité de tout le narratif de Jean-Luc Mélenchon depuis le pogrom, il ne s'agit que d'entournures sémantiques autour du conflit israélo-palestinien. Je n'ai d'ailleurs, à ce titre, personnellement, sauf erreur de ma part, jamais entendu aucune proposition de loi émanant du groupe parlementaire NUPES sur la pauvreté, la paupérisation des quartiers populaires, supposée quand même être la première de ces motivations. Je rappelle, parce qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon nous parler de capitulation, employer des mots comme ça, très grandiloquents dans la dramaturgie, etc. Mais quand on observe ce qui s'est passé, la capitulation, c'est lui. L'infamie, c'est lui, en tout cas certains de ses compagnons de route. Pourquoi je dis ça? Parce que son intention, c'est effectivement d'agréger le vote islamiste. Et pour ça, il utilise, à l'instar des islamistes, les mêmes méthodes. Je prends juste un exemple, la fatwa. Lorsque M. Jean-Luc Mélenchon accuse Mme Rutel-Krieff d'être obsédée par les musulmans, d'être une fanatique, que se passe-t-il a posteriori? Madame Rutel-Krieff est placée sous protection policière. Lorsque Madame Sophia Chikirou dit sur Twitter au sujet de Coco, postérieurement à un dessin, « Vous n'aurez pas ma haine, mais vous la méritez », Coco est placée sous protection policière. La rédaction de Libération est placée sous protection policière. Lorsque Monsieur Thomas Porte rapporte des propos d'un journaliste, Taoufik Hanani, concernant un franco-israélien qui aurait participé à Gaza, je ne vais pas citer le nom de cette personne. Cette personne, aujourd'hui, est sous protection policière, ainsi que sa famille. Donc, Monsieur Mélenchon, vraiment, nous n'avons pas besoin de vos leçons d'humanité, de démocratie, de liberté d'expression, etc. Parce que vous êtes la preuve vivante, avec votre groupe parlementaire, que vous êtes dans le déni de la démocratie. Pire que ça, vous la rejetez et vous la combattez.
Patrice Arditi, réaction.
Alors, bon, évidemment, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'il faut différencier le Mélenchon d'avant et le Mélenchon de maintenant. À l'occasion de ces européennes, le Mélenchon de maintenant n'a plus rien à voir à ce qu'il a été. Ça a été un ministre extrêmement correct, entre guillemets. C'est un tribun. Le côté tribun, et bien évidemment, il le poursuit, mais il le poursuit à des fins très opportuniste pour gagner justement un électorat dont Sabrina nous parlait dans un instant. Alors, lorsque M. Mélenchon dit à propos du président de l'université, il faut se méfier des lâches, moi je veux bien qu'on se méfie des lâches, mais il faudrait aussi se méfier de ceux qui, depuis un certain nombre de mois, appellent au chaos en permanence, en permanence, en permanence. Et il a derrière lui, il a quoi ? Il a, entre autres, des moutons. Donc qu'est-ce que fait M. Mélenchon ? Il est en train de réinventer une notion de panurgisme moderne, c'est-à-dire qu'il ouvre la bouche et nous avons la tête béate de satisfaction d'un certain nombre de personnes comme Boyard, par exemple, que je n'insulte pas, je m'en garderai.
Oui, c'est pas le mot.
J'ai dit simplement la tête béate de satisfaction, parce que le maître a parlé, le chef de bande a parlé. Et justement, là, j'écoutais tout à l'heure l'émission d'Eliott, il y a quelques heures, et qui accueillait entre autres Pierre Lelouch, et Pierre Lelouch dramatisait sur quelque chose qui est extrêmement important. Il disait, mais elles sont où les élections européennes chez Monsieur Mélenchon et LFI? On ne se soucie absolument plus de politique sociale, d'économie, de sécurité, de d'environnement. On se soucie de quoi chez Monsieur Mélenchon? On se soucie de la Palestine. Et un point, c'est tout. Et il était en train de dire, on vole ce vote aux Français.
Les amis, c'est la mi-temps de BNews Weekend. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On va parler encore politique avec vous, avec un sondage CNews. Et puis, on évoquera également la première intervention d'Emmanuel Macron. Hein. C'est jeudi où il va parler Europe et ça sera à la Sorbonne. On verra tout cela avec vous, ma chère Élodie. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il est un peu plus de 12h30. Merci de nous accueillir chez vous. Bon appétit si vous êtes à table. C'est Midi News jusqu'à 13h évidemment. C'est l'horaire du samedi. On fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
Une base militaire a été bombardée en Irak cette nuit. Au moins un mort et 8 blessés sont à déplorer. Cette base abrite des troupes de l'armée et d'anciens paramilitaires pro-Iran. La cellule média des forces de sécurité l'assure. Aucun drone ou avion de combat n'a été recensé au moment de l'explosion. La communauté internationale appelle à éviter une escalade du conflit au Moyen-Orient après les explosions survenues hier dans le centre de l'Iran. Une opération imputée à Israël en représailles aux frappes iraniennes du week-end dernier. Tsahal ne l'a cependant pas revendiqué. Enfin, en Formule 1, Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix de Chine aujourd'hui. Sur le tracé de Shanghai, le Néerlandais a devancé son coéquipier mexicain Sergio Pérez et l'Espagnol Fernando Alonso. Le leader du championnat du monde partira donc en tête demain et ce sera à suivre sur Canal+, bien sûr.
Évidemment, à suivre sur Canal. Merci ma chère Isabelle, on se retrouve dans 15 minutes. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins qui m'accompagne ce matin pour décrypter, analyser cette actualité très riche en ce samedi. Sabrina Medjamer et Patrice Arditi, évidemment. Et Élodie Huchard qui est restée avec nous. On va donc parler politique, on va parler des européennes avec ce sondage. 50 jours avant les élections européennes, le Rassemblement National caracole toujours en tête avec 29% des intentions de vote. On va le découvrir à l'écran. C'est le résultat donc de notre sondage OpinionWay pour CNews Europe 1 et le JDD. Et on voit le résultat, Rassemblement National 29%, majorité présidentielle 19%, Parti Socialiste 12%, France Insoumise 8%, Les Républicains 7%, Europe Écologie 6%, Reconquête 6% et Parti Communiste Français 4%. Le RN, plus que jamais en tête et largement.
Oui, et on voit surtout que les trois premiers que ce soit, le Rassemblement National, la majorité présidentielle ou le Parti Socialiste, en fait, sont pour l'instant relativement stables. Ça peut se comprendre aussi parce qu'on sait très bien que dans la tête des Français, les élections européennes ne sont pas franchement leur premier sujet de préoccupation. On sait que les votes, surtout pour une élection qui semble si lointaine, en fait, se cristallisent beaucoup, surtout à la fin. Il y a une volonté, effectivement, de la majorité présidentielle, non pas d'être devant le Rassemblement National. Ils savent que ça ne sera désormais plus possible, mais de tenter d'avoir l'écart le plus faible possible. En revanche, on voit qu'il y a toujours à peu près cet écart d'une dizaine de points entre les deux depuis le début de la campagne.
Et on voit le Parti Socialiste 12% et la majorité présidentielle 19%.
Oui, alors il y a certains qui jouent à se faire peur, comme on dit, en se disant que Raphaël Glucksmann pourrait être devant Valérie Hayer. Pour l'instant, certes, il s'est rapproché. On a vu en fait une montée de Raphaël Glucksmann il y a 2-3 semaines qui qui maintenant tend plutôt à stagner. Et puis surtout, il faut faire attention parce que l'électorat de Raphaël Glucksmann est plutôt un électorat très urbain, plutôt jeune. Il ne parle pas non plus à l'intégralité forcément de la France, alors que la volonté aussi maintenant de la majorité présidentielle, c'est d'essayer d'entrer entre guillemets dans le dur et d'avoir les personnes de la majorité présidentielle qui viennent faire campagne justement pour la candidate. On a vu la semaine dernière Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu faire des réunions publiques. On aura cette semaine Bruno Le Maire notamment.
Patrice Sabrina, Patrice, réaction.
Là, de toute façon, Élodie vient de dire que ça stagne. Il me semblait, ne serait-ce que la semaine dernière, que entre la liste de Monsieur Glucksmann et celle de la majorité, il n'y avait que 3 malheureux points, et on disait que le PS allait carrément rattraper la liste de la majorité. Là, sur ce sondage, je veux dire, de 19 à 12, il y a quand même une sacrée différence. Alors, c'est vrai que Monsieur Glucksmann a été en hausse à un certain moment, animé par je ne sais quoi dans l'actualité, mais ça semble stagner. Maintenant, moi, ce qui me semble extrêmement curieux, c'est j'aimerais savoir pourquoi tous ces gens-là votent. Est-ce qu'ils votent pour une liste? Est-ce qu'ils votent pour un leader? Ou est-ce qu'ils votent pour des propositions? Les propositions, on en parle peu souvent.
C'est vrai qu'on retrouve très très peu de propositions dans cette campagne des élections européennes, mais ce qui m'interpelle surtout, c'est la montée en flèche du Rassemblement national. C'est-à-dire que pour moi, Jordan Bardella et sa liste qu'il a constituée est assez révélatrice des clivages et des tendances même de clivages au sein de la société. Pourquoi ? Parce que je pense que cette intention de vote s'appuie sur deux dimensions assez explicatives et représentative des inquiétudes des Français, c'est-à-dire la première étant la dimension sociale, avec une paupérisation que l'on voit s'acter d'année en année, avec notamment la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, la crise inflationniste, etc. Et également la dimension liée à la sécurité et à l'immigration. Et je pense que le Rassemblement national aujourd'hui rassemble un peu tous les ingrédients qui préconise justement, entre guillemets, si j'ose faire cette métaphore, la meilleure salade pour répondre aux solutions des Français, sachant qu'en plus, dans leur liste, il y a quand même ce qu'on peut appeler des prises de guerre, c'est-à-dire des personnalités très calibrées. Je pense à Fabrice Leggeri, qui était l'ancien patron de Frontex, Malika Sorel, qui est une grande intellectuelle qui a énormément travaillé au Conseil à l'intégration, qui a écrit de multiples essais, qui, à mon sens, est l'un des meilleurs scanners de la société française, puisqu'elle a énormément travaillé sur ces dynamiques-là. Et puis, là, récemment, Mathieu Vallet, ancien syndicat de commissaires de police, qui était en prise avec le terrain. Donc, c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer, à mon sens, le succès de la montée de la liste conduite par Jordan Bardella aux européennes. Après, sur le clivage au sein même des partis de gauche, je pense que Raphaël Glucksmann a réussi à aspirer certainement les déçus de ceux qui avaient peut-être voté la France insoumise ou la NUPES à l'époque, parce qu'on sent aussi qu'il y a énormément de tensions, une prise sur l'antisémitisme, vraiment une mainmise sur le conflit israélo-palestinien. Cette façon qu'ils ont eu de l'importer ici en France a énormément déçu, je pense, les gens qui étaient réellement à gauche, la gauche sociale, la gauche laïque, la gauche démocrate.
Un rendez-vous cette semaine, enfin jeudi. Emmanuel Macron va parler Europe à la Sorbonne.
Oui, c'est le fameux discours Sorbonne 2. Pour le rappeler à nos téléspectateurs, en 2017, il avait fait un discours justement sur l'Europe à la Sorbonne qui commençait comme ça. « Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains, ils devront s'habituer parce que je continuerai. » Eh bien, justement, tout à l'heure sur les réseaux sociaux, le chef de l'État s'est servi de ce début de discours puisqu'il dit « Je reviens vous parler d'Europe ». Ses équipes nous disaient depuis un moment qu'il voulait faire un discours. Alors évidemment, on est en pleine campagne des élections européenne. En revanche, il préfère un discours avec un peu plus de hauteur, comme il va le faire jeudi, plutôt que de participer à un meeting. Ça a un avantage pour l'instant, c'est-à-dire que ça lui permet de parler d'Europe, ça lui permet de parler de sa vision de l'Europe et donc de faire campagne aux européennes. En revanche, c'est un peu moins impactant que d'aller directement à un meeting, parce que justement, on parlait des sondages il y a un instant, comme ils ne sont pas franchement bons pour la majorité présidentielle, il y a un risque pour le président à trop se mouiller. C'est de, par exemple, s'il participe, s'il fait un grand discours, comme il va le faire jeudi, s'il participe à un meeting et qu'on se voit que derrière, il n'y a aucun effet sur la liste de la majorité. Ça en dira long sur l'impact du président de la République.
Évidemment. Merci en tous les cas. Allez, je voudrais que l'on évoque un chiffre maintenant. 1731, les amis. 1731, atteinte à la laïcité signalée à l'école pour le deuxième trimestre. Les chiffres officiels ont été publiés par cette semaine par le ministère de l'Éducation. On voit tout cela avec Mathilde Ibanez.
L'action du ministère et des établissements pour le respect de la laïcité semble porter ses fruits. Avec 1731 faits signalés lors de ce deuxième trimestre scolaire, le ministère de l'Éducation enregistre une baisse de près de la moitié des signalements par rapport au premier trimestre où plus de 3000 atteintes avaient été recensées. En moyenne, sur le second trimestre et d'après les données du bilan, 45,5% des faits ont été signalés dans les collèges, 29,5% dans les lycées et 25% dans le premier degré. Toujours selon ces derniers chiffres, les auteurs de ces faits étaient à 78% des élèves. Et pour la première fois, des suspicions de prosélytisme continuent à la première catégorie d'atteinte avec 19% des signalements. Viennent ensuite les contestations d'enseignement à 16%. Le port de signes est tenu à 14% et les refus d'activités scolaires à 11%. Sur l'ensemble de ces signalements, 87% ont été pris en charge par les équipes académiques Valeurs de la République et plus de 800 actions de prévention ont été menées dans des établissements.
Que vous inspire ce chiffre, Sabrina, 1731 atteintes à la laïcité à l'école ?
C'est un chiffre qui malheureusement ne sera qu'exponentiel. Hein. Les atteintes à la laïcité, elles ont commencé il y a 40 ans, hein. Enfin, avec l'affaire des foulards de Creil. Hein. Je rappelle que, encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc évidemment que les atteintes à la laïcité ne cesseront d'augmenter et avec les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire une peur des enseignants, une peur des parents également, d'élèves. Parce que la laïcité n'arrive pas à se faire respecter malheureusement au sein des établissements par les professeurs qui, de fait, justement, de la peur des représailles, des expéditions punitives et des menaces, eh bien, n'arrivent plus à enseigner correctement ou en tout cas faire respecter. Parce que la laïcité, ça ne s'enseigne pas, ça se fait respecter. Il y avait un sondage récemment sur justement la peur des professeurs qui date de décembre 2023. 47% des professeurs, selon l'IFOP, s'auto-censure par rapport justement à cette question de la laïcité, à la liberté d'expression, à certains contenus de SVT, à certains contenus d'histoire géo, parce qu'encore une fois, l'enfant roi dans ses classes fait la loi, c'est lui qui décide de ce qui doit être enseigné, c'est lui qui décide de ce que doit dire ou doit faire le professeur. Nous avons eu un exemple de capitulation récemment avec la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel. Et effectivement, tant que l'État n'a pas la main qui est une main forte, puissante sur le respect ferme de la laïcité, les frères, parce qu'il faut savoir que ces attaques-là, elles ne répondent pas simplement à un élève ou une élève qui déciderait de défier la laïcité, elle répond à un écosystème. Hein. Derrière tout ça, il y a un quartier, il y a un imam, il y a encore une fois une culture qui a pour circonférence le quartier, qui oblige l'élève à faire preuve de défi et de défiance par rapport au professeur et au proviseur. Donc les atteintes à la laïcité, malheureusement, elles ne feront qu'augmenter jusqu'à ce qu'on ait un ministre de l'Éducation qui soit extrêmement ferme sur le respect de la laïcité qui, je le rappelle, est le socle de notre concorde nationale ou en tout cas dans l'école qu'on appelle le sanctuaire de l'émancipation de l'élève.
Et regardez ce que déclarait il y a deux jours Gabriel Attal, le Premier ministre. On va vous mettre cette déclaration. Vous avez dans beaucoup d'endroits en France des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste et donc les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles, Patrice Arditi.
Sabrina parlait à l'instant de fermeté. C'est vrai que lorsque Gabriel Attal a voulu interdire le port de la abaya, et qu'il qualifie d'ailleurs maintenant, parce que ça a réussi de victoire, ça a réussi. Maintenant, est-ce que d'autres personnalités vont être capables d'autant de fermeté? Mais lorsque Gabriel Attal, lorsque le Premier ministre dit pas de guerre de religion à l'école, il a raison. Mais vous rendez compte qu'il y a une guerre de religion chez les tout petit, puisque ce premier trimestre passé, plus du quart des atteintes à la laïcité ont eu lieu dans le premier degré. Alors qu'est-ce que peuvent faire les enseignants? Alors le Premier ministre parle de cellules d'appui pédagogique pour aider justement les profs contre les résistances et les contestations, mais les enseignants sont un petit peu dubitatifs et on peut les comprendre parce qu'il y a un effet d'annonce. Est-ce que ça va être concrétisant? On n'en sait rien.
Allez, Noémie Schulz est toujours avec nous. On l'a appris hier soir. Noémie, l'imam de nationalité algérienne qui officie à Toulouse a été expulsé hier soir vers l'Algérie. Gérald Darmanin a d'ailleurs communiqué et posté sur X un message qu'on va découvrir incessamment sous peu, qui va arriver. Voilà. Il arrive. Une nouvelle fois, la loi immigration nous permet d'expulser dans son pays d'origine en moins de 24 heures un imam de Toulouse, prêcheur de haine et condamné par la justice. La protection de la France et des Français est ma priorité, dit Gérald Darmanin. Il avait déjà été condamné, hein, cet imam, Naomi.
C'est parce qu'il a été condamné qu'il a pu être expulsé. Et il a été expulsé là parce que sa condamnation est devenue définitive en décembre dernier, après que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été donc formé par cet imam. On le rappelle, il avait été condamné par la justice pour un prêche qui remonte à 2017, un prêche dans lequel il était question de bataille finale et décisive entre les juifs et les musulmans. Ce prêche donc lui avait valu d'être renvoyé devant la justice pour provocation à la haine ouverte, et il avait été condamné, il avait été relaxé dans un premier temps, puis condamné par la justice à 4 mois de prison avec sursis pour incitation à la violence ou à la haine raciale. Voilà, c'est la peine avec laquelle il avait été condamné en appel. À l'époque, les associations qui s'étaient constituées partie civile, notamment le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, avait rappelé que de telles paroles pouvaient être à l'origine de passages à l'acte violent. On rappelle, ces propos avaient été tenus en arabe, il y avait un interprète qui les traduisait. Donc lui, lors de son procès, avait dit que ça avait été mal interprété et qu'au contraire, c'était une mise en garde qu'il envoyait à l'encontre, à destination des musulmans pour au contraire les mettre en garde de ne pas passer à l'acte. Ça n'avait pas convaincu la justice. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Sa condamnation est devenue définitive en décembre dernier. Et donc, il y a quelques jours, Gérald Darmanin a pris cet arrêté d'expulsion qui a été exécuté très rapidement puisque dans la journée même, cet imam a été renvoyé vers l'Algérie. Ses avocats ont fait savoir qu'il faisait un recours contre cet arrêté d'expulsion devant le tribunal administratif qui sera examiné lundi. Et ils ont condamné une décision prise alors que cet homme, ont-ils rappelé, vit depuis 40 ans en France et n'avait pas fait parler de lui depuis 7 ans, depuis donc ce fameux prêche.
Merci beaucoup Noémie. Allez, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
Prévu aujourd'hui dans le secteur de la Tour Eiffel, un défilé d'une cinquantaine de chameaux, dromadaires, lamas et alpagas n'aura pas lieu. Le tribunal administratif de Paris a confirmé hier l'interdiction de la préfecture de police pour raison de sécurité. Une réunion de crise doit déterminer si l'événement se tiendra finalement dans le bois de Vincennes. Le retour à la normale est difficile à Dubaï, toujours en proie à des inondations après les pluies torrentielles de mardi. De nombreux axes routiers sont sous l'eau. Hier, le trafic aérien était toujours perturbé. Le gouvernement n'a pas encore communiqué de chiffres sur le nombre de dégâts et leur montant. Enfin, elle fait le bonheur de ses fans. Taylor Swift a sorti un double album traduit Le Cercle des Poètes Torturés. 31 titres pour un 11e opus XXL étant en 24 heures l'album le plus écouté de l'histoire de Spotify. Taylor Swift est à 34 ans, la première artiste à être milliardaire grâce au seul revenu tiré de sa musique.
Et je suis persuadé que vous allez aller à son concert.
Alors pas moi, mais François en régie a très hâte de l'événement.
François Hepp, qui me parle à l'oreille, qui est mon plus proche collaborateur dans cette émission. Merci en tous les cas, chère Isabelle. On poursuit sur cette affaire de l'imam. Je voulais vous faire écouter, avant de vous faire agir, Muriel Wakin Melki, qui est avocate et qui était partie prenante dans l'affaire.
Nous étions présents en première instance et également en cause d'appel. Dans ce dossier, ça avait été compliqué, en fait. On avait des petites difficultés à l'instruction pour que le magistrat arrive à comprendre la gravité de la provocation à la haine que contenait ce hadith, qui avait été prononcé devant plus de 4000 personnes à la Grande Mosquée de Toulouse. Mais à la fin, le magistrat avait renvoyé l'imam Tataya devant la juridiction correctionnelle de première instance, qui l'avait relaxé dans un premier temps. Nous avions fait appel avec le parquet à l'époque. Et puis, en cause
d'appel... Pour incompétence, c'est ça, en première instance ?
Non, on avait considéré... Non, pas pour incompétence. Le tribunal avait considéré que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour aller sur une condamnation.
Réaction à tous les deux, Sabrina.
Alors, brièvement, j'espère que Gérald Darmanin, parce qu'il faut quand même saluer cette mesure, qu'il fera la même chose avec l'imam de Beaucaire, qui avait également prêché sur le même fondement de ce hadith qui parle de pierre, de jet de pierre, de juif, etc. Cet imam franco-marocain qui avait également été condamné pour apologie du terrorisme. Donc il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que monsieur Gérald Darmanin fasse preuve d'autant de fermeté à l'égard de ce monsieur Yassine Elimar, imam de Beaucaire.
Deux mots, Patrice.
Alors, il n'y a pas que les histoires de terrorisme. Je me souviens de l'imam Hamada, si je me souviens bien, qui exigeait, si je peux dire, que les femmes, notamment musulmanes, restent uniquement dans leur foyer. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement répréhensible. Maintenant, là aussi, on peut saluer le ministre qui a eu du mal au début, souvenez-vous, qui a eu du mal vraiment à tenter de renvoyer hors de France un certain nombre de personnalités qui serait un petit peu intégriste, mais c'est pas forcément contre les imams. On pourrait également parler de prêtres ou de rabbins qui seraient très offensifs. Si c'était le cas, là, ce sont les imams. Et bien, finalement, les choses, elles avancent.
Merci Patrice, merci Sabrina de m'avoir accompagné durant cette heure. Merci Noémie, merci à l'équipe qui m'a accompagné, François Hepp, Anne-Isabelle Tellet, Céline Pina. Merci à la programmation évidemment, aux équipes en régie, réalisation Arnold Cara, à la vision David Marin, au son Rodrigue, assistant Arthur Veille. Vos prochains rendez-vous à suivre face à Michel Onfray avec Laurence Ferrari. Et puis à 14h, ne manquez pas évidemment le grand Lionel Rousseau pour 180 minutes info. Moi je vous dis, passez tout simplement une belle journée en regardant CNews évidemment. Et je vous retrouve demain à partir de 11h pour 2h d'information. Mini News Weekend le dimanche. Vous savez, on ouvre de 11h et on ferme à 13h. Bye bye et à demain.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.